Merci d'écouter RFI. Il est 13h en temps universel, 8h à Port-au-Prince. RFI midi, suite et fin. On est ensemble pendant une demi-heure pour faire le tour de l'actualité d'Haïti et du continent américain. On va d'abord prendre la direction de Port-au-Prince où, comme tous les jeudis, le rédacteur en chef du Nouvelliste, Franz Duval, nous attend. On va notamment évoquer avec lui le message de Noël délivré hier par le président du Conseil présidentiel de transition d'Haïti. Autre message de Noël qui fait réagir aujourd'hui, celui de Donald Trump. Le futur président américain donne le ton pour son prochain mandat puisqu'il réitère tous ses propos polémiques de ces derniers jours, notamment sur le canal de Panama. Notre invitée, aujourd'hui la maîtresse de conférence au Centre d'études mexicaines et centra-américaines, Maya Colombone. On parle avec elle de la situation politique au Nicaragua, à quelques semaines de la promulgation de la nouvelle constitution qui doit donner les pleins pouvoirs à Daniel Ortega. On revient aussi sur une disparition, celle de la chanteuse Dulce, figure de la musique mexicaine. Elle est morte à l'âge de 59 ans. Et puis, l'actualité des Caraïbes. C'est avec vous, Alex Léveillé d'Outre-mer la première. Alex, nous irons en Martinique et en Guadeloupe.
Eh oui, pour parler de lutte contre la corruption et des personnes en errance.
À tout à l'heure, Alex. Mais d'abord, c'est le journal. Bonjour Gali Bonin.
Bonjour Arthur et bonjour à tous. Nous commençons ce tour d'horizon de l'actualité internationale en Syrie, où les nouvelles autorités viennent de déclencher une opération sécuritaire dans l'ouest du pays, le bastion de la minorité alaouite dont est issu Bachar al-Assad. Les forces nationales disent y mener une action contre des milices fidèles à l'ancien régime. Cette annonce survient au lendemain d'affrontements meurtriers et de manifestations menées par la communauté alaouite. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 17 personnes sont mortes durant des heurts dans la région de Tartous. 14 d'entre eux seraient des membres des forces de sécurité. Le nouveau pouvoir à Damas qui tente de tourner la page sur le régime de Bachar al-Assad, une transition qui passe aussi par des politiques économiques. Pendant le règne du dictateur, le commerce des devises étrangères était strictement interdit ou encore réservé aux sociétés proches du régime. Une situation qui change aujourd'hui au moment où les échanges en dollars sont de nouveau permis. Le reportage de Mohamed Erami à Damas.
Dans une petite épicerie animée du centre de Damas, Amer Saad, le propriétaire, accueille ses clients avec un large sourire. Sur son comptoir, des billets en livres syriennes côtoient désormais des dollars américains.
Tous les Syriens ont ressenti un grand soulagement grâce à Dieu, car nous étions sous pression et nous ne pouvions même pas mentionner le dollar. Avant le départ d'Assad, parler du dollar, même au téléphone, pouvait entraîner une peine de prison de 7 ou 8 ans. Maintenant, nous sommes vraiment soulagés et très heureux.
Les bureaux de change officiels, eux aussi, ont repris leurs activités à travers la ville. Derrière l'un des employés, des écrans affichent en temps réel le taux actuel. Un dollar vaut environ 15 000 livres syriennes. Amer, employé dans l'établissement, confirme.
C'est une nouvelle forme de libération pour nous, d'autant plus que la majorité des travailleurs dans le domaine du change ont été arrêtés et interrogés. Personnellement, j'ai été arrêté et une affaire financière a été montée contre moi pour seulement 100 dollars.
Selon les experts, cette réouverture du marché des devises pourrait stabiliser les prix et redonner confiance aux consommateurs. Un changement salué par la population qui voit là une lueur d'espoir pour l'économie locale. Mohamed Erami, Damas, RFI.
Tourner la page sur l'ère Assad, c'est aussi tisser de nouvelles relations diplomatiques. Une délégation irakienne était à Damas aujourd'hui pour rencontrer la nouvelle administration. L'idée était de discuter des besoins de sécurité et de stabilité à la frontière entre les deux pays. Et au contraire, dans la bande de Gaza, les négociations, elles, semblent piétiner. Après des déclarations plutôt optimistes ces derniers jours, le Hamas et Israël s'accusent mutuellement de bloquer les discussions. Les rencontres qui se font sous la supervision du Qatar et de l'Égypte portent sur l'obtention d'un cessez-le-feu et de la libération des otages. Dans l'enclave palestinienne, le ministère de la Santé du Hamas annonce la mort d'au moins 38 personnes au cours des dernières 24 heures, parmi eux 5 journalistes d'une chaîne de télévision affiliée au djihad islamique palestinien. Selon le média, ils ont trouvé la mort à l'aube durant une frappe israélienne contre le camp de réfugiés de Nusayrat. L'armée israélienne, elle, affirme avoir ciblé une cellule du groupe armé. Les services de sécurité russes ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient déjoué plusieurs tentatives d'assassinat de hauts responsables de l'armée. De potentiels actes terroristes que Moscou impute aux services ukrainiens. La semaine dernière, le général Kirillov s'était fait assassiner au moment où il sortait de chez lui. À Moscou, la correspondance de Jean-Didier Revoin.
On ne connaît pas l'identité des cibles, mais le FSB concède tout au plus qu'il a déjoué une série de tentatives d'assassinat de militaires de haut rang du ministère russe de la Défense. Le service fédéral de sécurité mentionne en outre que 4 ressortissants de la Fédération de Russie, recrutés par les services secrets ukrainiens et impliqués dans la préparation de ces attaques, ont été arrêtés. On en sait un peu plus sur le mode opératoire qui consistait à placer des explosifs dans des objets du quotidien ou du moins qu'ils leur ressemblaient fortement. Il s'agissait de faire livrer à l'un des militaires une bombe ressemblant à un porte-document ou de fixer sur la voiture d'un responsable du ministère de la Défense une bombe camouflée en batterie électrique. Si ces tentatives d'assassinat ont pu être déjouées, le général Igor Kirillov n'a pas eu cette chance. Il a péri le 17 décembre dernier dans l'explosion d'une trottinette électrique piégée alors qu'il sortait de chez lui. D'après le témoignage du principal suspect arrêté quelques heures plus tard, la bombe avait été activée par des membres des services ukrainiens qui surveillaient en temps réel, à l'aide d'une caméra vidéo placée dans une voiture de location garée à proximité, les allées venu au bas de l'immeuble. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
Nouveau revirement dans la crise politique en Corée du Sud. L'opposition sud-coréenne a déposé une motion de destitution contre le premier ministre et président par intérim, Han Duk-soo. Le parti démocrate, première opposition du pays, l'accuse de vouloir protéger le président déchu Yoon Suk-yeol. Il avait tenté d'imposer la loi martiale au début du mois avant d'être suspendu de ses fonctions par le Parlement. Les explications de notre correspondante à Séoul, Camille Ruiz.
La menace d'une destitution plane sur le premier ministre et président par intérim Han Duk-soo. Au cœur des tensions politiques, deux projets de loi. L'un concerne une enquête spéciale qui vise le président suspendu Yoon Suk-yeol après le fiasco de la loi martiale. L'autre, la première dame, accusée de corruption. Il y a quelques jours, le premier ministre Han Duk-soo a utilisé le veto présidentiel contre ces projets de loi. Résultat, le principal parti d'opposition, le Parti démocrate, le surnomme, je cite, « la marionnette de Yoon Suk-yeol ». Le sort du président suspendu Yoon Suk-yeol est entre les mains des 9 juges de la Cour constitutionnelle qui doivent se prononcer, le remettre au pouvoir ou le destituer définitivement. Sur ce dernier point, l'accord d'au moins 6 d'entre eux est nécessaire. Seulement, voilà, il y a 3 sièges vacants et le Premier ministre Han Duk-soo est accusé par le Parti démocrate de retarder la nomination des nouveaux juges élus par l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est la goutte de trop pour le Parti démocrate qui espère passer la motion de destitution vendredi. Camille Ruiz, Séoul, RFI.
Au Japon, le trafic aérien fortement perturbé après une cyberattaque contre le transporteur Japan Airlines. La compagnie a suspendu ses ventes de billets pour la journée depuis 2 ans. Le Japon est fréquemment visé par des attaques informatiques. En 2023, l'agence spatiale japonaise et le port de Nagoya au centre du pays avaient été touchés. Sur la planète football, le 26 décembre, c'est un peu le Boxing Day en première ligue anglaise. 8 rencontres au programme avec notamment le leader, Liverpool, qui recevra Leicester à Anfield à 20h en temps universel. Les Reds sont inarrêtables à l'image de Mohamed Salah qui rayonne. L'Égyptien est le meilleur buteur, le meilleur joueur du moment en Angleterre, même si la question de son avenir n'est pas réglée. Il affiche une confiance à toute épreuve, Baptiste Leduc.
Pour sa 8e saison à Liverpool, Mohamed Salah prouve que le temps n'a pas de prise sur lui. 15 buts et 11 passes décisives en 16 matchs de Premier League. Le pharaon de 32 ans est le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat anglais. Un exploit déjà historique puisque depuis la première édition en 1992, aucun joueur n'avait réussi à dépasser 10 buts et 10 passes avant Noël. L'Égyptien s'est parfaitement adapté aux préceptes de son nouvel entraîneur, Arne Slot. Mais paradoxalement, Salah n'a jamais été aussi près de quitter les bords de la Mersey. Il sera en fin de contrat en juin prochain, comme ses coéquipiers Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold. Selon The Athletic, Liverpool lui a fait une offre de prolongation, mais à ce jour, rien n'est signé et Mo Salah sera donc libre de discuter avec d'autres clubs dès le 1er janvier. Ses statistiques pharaoniques le placent forcément en position de force pour négocier et les vacillants Foxes de Leicester ont tout de la proie idéale pour continuer sur sa lancée.
Les précisions de Baptiste Leduc. Et voilà, c'est ce qui me fait un journal, mais restez à l'écoute, vous êtes entre de bonnes mains. Ce sont les vôtres, Arthur Ponchelet.
Merci Gali Bonin, on vous retrouve dans 2 heures pour un nouveau journal. Il est 8h10 à Port-au-Prince.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Direction Haïti, où comme ailleurs, les autorités souhaitent leurs meilleurs vœux à leurs concitoyens. À Port-au-Prince, c'est Leslie Voltaire, le président du CPT, le Conseil présidentiel de transition, qui a posté un message vidéo hier.
Noël, c'est fête tout petit monde. Tout petit monde, c'est petit monde.
Les fêtes de fin d'année sont pour tout le monde. Chacun a le droit à la sécurité, d'aller à l'école, de se nourrir. Les mots de Leslie Voltaire au peuple haïtien. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Arthur.
Rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste, en direct avec nous de Port-au-Prince. Franz, ses meilleurs voeux paraissent en décalage avec la réalité sécuritaire du pays.
Tout à fait en décalage, d'autant que le président a employé l'expression « timoun » en Haïti qui signifie « les enfants ». Il n'y avait pas de vœux pour les adultes, il n'y avait pas de vœux pour ceux qui affrontent les difficultés, l'adversité, la violence en Haïti. Le président a essayé de s'adresser aux enfants. C'est une façon de se démarquer, mais surtout de ne pas affronter directement la situation gravissime que vivent les Haïtiens.
Ces fêtes justement de fin d'année endeuillées par ce qu'il s'est passé mardi lors de la réouverture de l'hôpital général par le ministère de la Santé à Port-au-Prince. Les tirs des gangs ont tué deux journalistes venus couvrir l'événement et un policier. On en parlait hier, Franz. Y a-t-il ou va-t-il y avoir des conséquences politiques à ce drame et cette réouverture qui s'est faite visiblement trop rapidement ?
Alors, il y a des rumeurs qu'on va limoger le ministre de la Santé publique et de la Population, celui qui était en charge de l'inauguration, d'autant plus que les journalistes ont été quasiment abandonnés devant l'hôpital. Les autorités ne se sont jamais présentées. Ils sont arrivés des heures après le drame, alors qu'ils avaient donné rendez-vous à la presse. Et pour le moment, il n'y a pas de décision arrêtée. Haïti était dans la petite parenthèse des fêtes de la Noël. Il n'y avait pas vraiment d'activité politique. Là, on attend pour savoir qu'est-ce qui va être fait.
Et les associations de journalistes, elles, comment est-ce qu'elles réagissent?
Pour le moment, c'est la consternation, c'est la stupeur. Personne ne comprend cette cérémonie dans un milieu qui n'est pas protégé, dans un milieu où déjà le Premier ministre Gary Conille avait dû prendre la fuite avec son cortège, avec les Kenyans, avec tout le monde, quand les gangs aussi avaient attaqué lors d'une visite du Premier ministre Conille. Et on ne comprend pas. Il n'y a pas encore de réaction formelle non plus, parce qu'il y avait la pause de la Noël, comme je l'expliquais. Mais je suppose que toutes les associations de presse, de médias et de journalistes vont monter au créneau pour dénoncer ce carnage.
Franz, pour finir, on fait avec vous le bilan de cette année. Qu'est-ce que vous retenez de cette année?
C'était une année très difficile, une année très compliquée pour Haïti. C'est une année violente, avec plus de 5000 morts de morts violentes. Les gangs ont montré encore une fois leur capacité. Ils ont fait partir quasiment le Premier ministre Ariel Henry. Ils ont provoqué ou accompagner la chute de Gary Conille. Ils continuent d'avancer. Des quartiers sont encore pris dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les autorités résistent, la police fait de son mieux, mais ça a été une année très difficile.
Il y a donc ces difficultés, cette incertitude. Est-ce qu'il y a tout de même des bonnes nouvelles qui ont retenu votre attention?
Une bonne nouvelle pour l'avenir, Haïti a liquidé la dette dite Petro-Caribe. C'est une énorme dette qu'Haïti avait envers le Venezuela. Haïti a pu trouver un arrangement, payer la dette. Pour le moment, le service de la dette est très faible en Haïti. Haïti n'a quasiment pas de dette à l'international. Il y a la goutte qui s'est stabilisée. L'inflation aussi a ralenti. C'est de bonnes nouvelles pour l'avenir, mais pour le moment, c'est le problème sécuritaire qui affecte tout le monde.
Et on continuera évidemment à suivre tout cela avec vous. Franz Duval du Nouvelliste en direct avec nous de Port-au-Prince. Merci à vous et très belle journée.
Vous écoutez RFI Midi.
On parlait des présidents qui adressent leurs vœux. Ceux de Donald Trump ne sont pas passés inaperçus. Dans un message publié hier sur son réseau social, le futur président des États-Unis réitère ses propos polémiques de ces derniers jours sur le canal de Panama. D'abord, joyeux Noël à tous, y compris aux merveilleux soldats chinois qui exploitent avec amour, mais illégalement, le canal de Panama, écrit-il. Autre cible de ce message de Noël, le Canada. Si le Canada devenait notre 51e État, écrit-il, leurs impôts seraient réduits de plus de 60%, leurs entreprises doubleraient immédiatement de taille et ils seraient protégés militairement comme aucun autre pays du monde. Fin de citation. Donald Trump ne s'arrête pas là et rappelle aussi ses prétentions sur le Groenland, qu'il considère comme stratégique. Les habitants du Groenland, dont les États-Unis ont besoin pour leur sécurité nationale, veulent que les États-Unis soient présents et nous le serons, dit-il. Le Groenland est à nous et n'est pas à vendre, lui avait répondu en début de semaine le premier ministre du territoire autonome qui appartient au Danemark. Le ton est donné donc pour ce deuxième mandat à venir de Donald Trump. Et à un mois de son investiture, le Mexique annonce une nouvelle saisie de fentanyl, cette drogue à l'origine de milliers d'overdoses aux États-Unis et qui est au cœur de la discorde entre Washington et Mexico. Donald Trump a promis d'augmenter les tarifs douaniers si son voisin du Sud n'arrête pas l'immigration clandestine et le trafic de drogue. Donald Trump sera donc investi président le 20 janvier. 10 jours plus tôt, Nicolas Maduro doit lui rempiler pour un nouveau mandat au Venezuela, après une élection présidentielle contestée par l'opposition. Scrutin en juillet dernier, après lequel de nombreux manifestants qui avaient dénoncé des fraudes ont été arrêtés. Certains ont été libérés ces derniers jours, mais beaucoup restent incarcérés, comme l'a déclaré hier dans un message vidéo Alfredo Romero, le président de Foro Penal, une organisation non gouvernementale de défense des droits de l'homme, qui a suivi ces arrestations.
Ce Noël est celui avec le plus grand nombre de prisonniers politiques. Il reste plus de 1800 personnes privées de liberté pour des motifs politiques. Il n'y a plus d'adolescents emprisonnés, ça c'est une bonne nouvelle, ils ont tous été libérés. Nous avons aussi la confirmation qu'en décembre, 100 personnes ont été relâchées, on espère en voir plus dans les prochains mois, et nous continuons d'exiger la libération des 1800 prisonniers politiques du pays.
De tous les presos politiques qui suman plus de 1800 personnes.
Le président de Foro Penal, Alfredo Romero, c'était une figure très controversée, Desi Bouterse, ancien président du Suriname, est mort en cavale. Il avait 79 ans, auteur de 2 coups d'État et condamné l'an dernier à 20 ans de prison pour assassinat. Il n'aura jamais mis les pieds en prison, Vincent Souriau.
Il est mort sans avoir payé pour l'atroce assassinat en décembre 1982 d'une quinzaine de personnalités, avocats, hommes d'affaires, journalistes et militaires qui avaient osé le défier, exécuté par balle en plein cœur de la capitale. Resté dans toutes les mémoires, le massacre de décembre, comme tout le monde l'appelle au Suriname, va le poursuivre toute sa vie. L'avocat américain Reed Brody, qui a travaillé des années auprès des plaignants.
Il entre dans l'histoire comme un meurtrier de masse, et cela grâce aux familles de victimes qui n'ont jamais baissé les bras, la farouche indépendance de la justice surinamaise. Mais c'est un vrai parcours de combattant.
Plus de 40 ans vont passer entre ce carnage et sa condamnation en 2023 à 20 ans de prison. Entre-temps, Desi Bouterse a tout essayé. Charismatique et resté très populaire dans une partie de l'opinion, l'ancien chef de la junte parvient à se faire élire président du Suriname par 2 fois en 2010 et 2015. Il tente de faire passer une loi d'amnistie pour éteindre la procédure, cherche à destituer le procureur général, mais la justice tient bon, il est inculpé alors qu'il est encore au pouvoir et prend la fuite avant de purger sa peine, avant de mourir, il aura passé 1 an dans la clandestinité.
RFI, la radio del mundo.
Il est 7h18 à Managua, le Nicaragua et ses autorités toujours plus répressives. Dernier épisode en date, l'annonce le mois dernier de Daniel Ortega de faire voter une réforme de la Constitution. Réforme qui lui donne tous les pouvoirs, mais aussi à son épouse Rosario Murillo, qui deviendrait coprésidente. Le texte doit être voté en janvier, son adoption ne fait aucun doute. Pour en parler, on reçoit Maya Colombon, maîtresse de conférences en sciences politiques au Centre d'études mexicaines et centra-américaines. Elle est au micro de Christophe Paget.
Maya Colombon, bonjour.
Bonjour.
Selon Human Rights Watch, cette nouvelle constitution fait du Nicaragua la Corée du Nord de l'Amérique latine. Est-ce que c'est exagéré ?
Non, je ne crois pas que ce soit exagéré. C'est une situation totalement dingue, dans laquelle effectivement une constitution est réformée sur l'ensemble de ses principes fondamentaux et modifiée à tel point qu'elle n'a plus du tout les mêmes caractéristiques que la constitution sur laquelle elle se base.
Alors, on va analyser ces modifications dans le détail. Déjà, le pouvoir présidentiel est partagé entre 2 personnes.
C'est une des réformes les plus visibles, disons. Depuis quelques mois, les proches du pouvoir avaient déjà l'habitude d'utiliser le terme de coprésidente pour parler de Rosario Murillo, qui a été élue comme vice-présidente lors des dernières élections, qui est l'épouse de Daniel Ortega, qui est la femme forte du régime. Et donc, la Constitution institue la figure de coprésidente. Donc, elle serait aujourd'hui, au même titre que Daniel Ortega, présidente du Nicaragua. Et donc, tous deux se partagent le pouvoir. Il y a très clairement l'idée de créer une dynastie. L'idée aussi que Daniel Ortega est malade depuis très longtemps. Donc, la possibilité de son décès permettrait une continuité du pouvoir grâce à cette figure de coprésidence. Donc, elle serait directement, disons, la seule présidente au pouvoir en cas de décès de son époux. C'est aussi, de manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus ancienne, le résultat d'une tractation qui a eu lieu dans les années 2000. Daniel Ortega est accusé par sa belle-fille, la fille de Rosario Murillo, son épouse, de viols répétés pendant son enfance. Daniel Ortega a obtenu l'appui, le soutien de son épouse contre sa fille, qui a été expulsée du pays, exilée à ce moment-là au Costa Rica. Et en contrepartie, Daniel Ortega a à chaque fois donné plus de pouvoir à son épouse.
Dans cette réforme, en cas de décès ou de retrait d'un des deux coprésidents, celui qui est encore en poste achève le mandat et il choisit un nouveau coprésident, ce qui pourrait permettre à leur fils, Laureano Ortega Murillo, d'accéder au pouvoir.
Oui, tout à fait. Ils ont beaucoup d'enfants, ils ont 11 enfants, mais le préféré, celui qui est le plus proche du couple présidentiel et qui a le plus de pouvoir, est effectivement Laureano, qui s'est occupé pendant très longtemps des accords commerciaux avec les pays étrangers. C'est lui qui a favorisé le rapprochement du Nicaragua avec la Chine et avec la Russie. Et donc, c'est le dauphin de cette famille Ortega Murillo qui prévoit donc de se maintenir au pouvoir grâce à cette constitution pendant très très longtemps.
Cette réforme donne aussi le contrôle des pouvoirs législatifs, judiciaires et électoraux à la présidence. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs.
La constitution acte quelque chose qui existait déjà en fait au cours des deux derniers mandats au Nicaragua. Ce qu'a réussi à faire le clan Ortega Murillo, c'est de politiser l'ensemble des institutions et des administrations en ne mettant que des proches du pouvoir au poste clé. Ça fait très longtemps qu'il n'y a plus d'indépendance ni de la justice ni du Parlement. Le Parlement, lors des dernières élections, est quasiment à sa totalité au parti sandiniste. Et les quelques partis qui ne sont pas du parti sandiniste sont en fait des partis périphériques, puisque une des stratégies du couple Ortega Murillo a été justement d'interdire les partis d'opposition et de persécuter toute forme d'opposition politique.
Dans la réforme sont visés les opposants au régime. Il est prévu que les traîtres à la patrie perdent la nationalité nicaraguayenne. C'est déjà une arme que Daniel Ortega a utilisée à de très nombreuses reprises.
C'est quelque chose qui existe maintenant depuis quelques années et qui s'est renforcé au point d'arriver à plus de 450 déchéances de nationalité de figures majeures de l'opposition nicaraguayenne, avec cette idée de vider le pays de ses opposants politiques. Et donc la Constitution, encore une fois, acte des choses qui existaient déjà de fait. C'est un peu cette idée d'une situation de dictature totale, je ne sais pas si je peux le dire comme ça de manière aussi simple, mais en tout cas extrême, dans laquelle en fait depuis longtemps les partis politiques sont interdits, toute forme d'opposition est réprimée très durement, voire violemment, mais avec cette idée que on institutionnalise cette impossibilité de s'opposer à ce qui serait l'État sandiniste et à ses particularités et à son modèle. La Constitution, elle pose une certaine façon de penser l'État nicaraguayen et d'être nicaraguayen, puisque si l'on ne correspond pas à l'homme sandiniste, on est forcément traître à la patrie.
Évidemment, quand on lit le contenu, vous le dites, il y a déjà pas mal de choses qui sont en place, mais voilà, tous ces pouvoirs-là, il les a déjà, donc pourquoi est-ce qu'il veut absolument réformer la Constitution pour légaliser tout ça?
Je dirais que c'est pour perdurer. Le peu de légitimité qui reste encore à l'État sandiniste, il le doit à la figure de Daniel Ortega, qui a malgré tout, même si c'est devenu un horrible dictateur aujourd'hui, bénéficie d'une certaine aura révolutionnaire, en partie fausse, enfin complètement fausse même, mais je veux dire, qui ne tiendra pas une fois que lui sera parti. C'est un État qui ne tient que par la violence, que par la force. Et donc, il a besoin de cet esprit de la Constitution autoritaire et répressif pour pouvoir maintenir son modèle.
L'opposition appelle un soulèvement populaire en réaction à cette réforme. Comment la population, elle, a réagi?
Comme elle peut. Les réseaux à l'intérieur du Nicaragua sont excessivement contrôlés. C'est un des points, d'ailleurs, de la réforme de la Constitution. C'est la possibilité, qui était déjà en cours, mais de contrôler les téléphones, Internet, enfin de tout contrôler. C'est très compliqué de se retrouver et de manifester. Les manifestations sont interdites, elles doivent être validées par l'État pour pouvoir être autorisées. Donc ça serait compliqué, et les risques aujourd'hui pour les Nicaraguayens de l'intérieur sont tels que la probabilité de grosses manifestations est très faible, en fait. Un tweet peut vous envoyer en prison au Nicaragua aujourd'hui.
Alors l'opposition, elle essaie d'avoir des réactions, justement. Elle a demandé à la communauté internationale de rompre, je cite, « toutes les relations économiques avec la dictature ». En particulier un appel en direction des États-Unis, qui représentent la moitié des échanges commerciaux avec le Nicaragua. Est-ce qu'on sait ce que Donald Trump pense de Daniel Ortega et Rosario Murillo ?
Alors, il n'en pense pas du bien, mais il est beaucoup plus préoccupé par le Mexique et par le Venezuela. Donc, je ne pense pas qu'il fera grand-chose. Et donc, l'opposition nicaraguayenne est face un peu à cette situation terrible qui est que, voilà, il y a une indifférence assez généralisée. On ne voit pas très bien où serait la solution et quel serait le canal un peu qui permettrait une transformation et un changement de la situation politique actuelle.
Maya Colombon, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Maya Colombon, maîtresse de conférences en sciences politiques au Centre d'études mexicaines et centra-américaines avec Christophe Paget. Et avant de retrouver nos confrères de La Première pour l'actualité des Caraïbes, une voix qui s'est éteinte. Celle de la chanteuse Dulce, figure de la musique mexicaine. Elle s'est éteinte hier à l'âge de 69 ans des suites de complications liées à une opération pulmonaire. Parmi ses ballades les plus connues, il y a l'incontournable Déjame Volver.
Le journal de l'Outre-mer.
Et comme tous les jours, l'actualité des Caraïbes, c'est avec nos confrères d'Outre-mer La Première, avec aujourd'hui Alex Léveillé. À la une, le FBI souhaite renforcer sa lutte contre la corruption dans la Caraïbe et les Antilles françaises.
Et c'est à l'issue du forum organisé par la Banque de Développement le 9 décembre dernier. Le service fédéral de police judiciaire américain a mis en avant une potentielle collaboration avec les institutions des Caraïbes dans la lutte contre la corruption. Yanis Eli de Guadeloupe La Première.
Grâce au développement de plusieurs outils de ses partenariats stratégiques, l'organisme veut aider les pays de la Caraïbe à lutter efficacement contre la corruption. Si la majorité des pays de la Caraïbe sont relativement peu corrompus, d'autres comme Haïti ou même la République dominicaine sont classés parmi les plus corrompus au monde, selon l'ONG Transparency International. La présence du FBI dans la Caraïbe facilite la coordination des activités internationales, mais aussi la formation contre le terrorisme, la fraude financière, le crime organisé ou même la cybercriminalité. Autre mesure mise en place par le FBI, un programme pilote qui offre des récompenses aux personnes qui dénoncent des violations commises par des entreprises, renforçant ainsi considérablement sa capacité à découvrir la corruption. Le FBI déploie également des conseillers dans des endroits clés du monde pour encadrer les organismes chargés de l'application de la loi, une initiative dont les pays de la Caraïbe pourraient y avoir droit.
Et en Martinique, les personnes en errance seraient de plus en plus nombreuses dans le secteur de Fort-de-France. Pour la directrice adjointe de l'Association citoyenne pour l'insertion solidaire économique, Géraldine Laloupe, il est important de comprendre les causes pour identifier les réponses.
Beaucoup de jeunes, des personnes que nous connaissions déjà, qui malheureusement se retrouvent en fin d'année sans logement ou en grande difficulté, qui viennent chez nous. Et c'est important pour nous de pouvoir avoir cette attention, de comprendre pourquoi elles viennent et qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme réponse. Alors c'est vrai que nous avons une équipe de professionnels, donc de travailleurs sociaux qui sont là pour pouvoir faire des entretiens, comprendre, faire les bonnes orientations vers nos services d'hébergement ou ailleurs. Et puis nous avons aussi le service de maraude du SAMU social qui intervient en rue pour là aussi repérer les nouvelles personnes qu'ils constatent en rue. Et puis nous intensifions nos maraudes aussi sur ces périodes-là, aussi bien maraude nocturne que diurne. Et puis sur les temps de fête aussi, donc le 24, le 31, le 25, sur le secteur de Fort-de-France-Cassem, nous sommes vraiment à plus de 200 personnes qui ont été identifiées. Donc ces personnes qui, alors soit sont en rue directement, vivent en squat, vivent dans des véhicules, de nouvelles personnes qui arrivent sur le territoire aussi de Fort-de-France. Donc ce chiffre ne fait que qu'augmenter.
Voilà, Géraldine Laloupe, directrice adjointe de l'association citoyenne pour l'insertion solidaire et économique, était au micro de Mike Irasque de Martinique, la première, et c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Très bonne journée à vous aussi, Alex Léveillé d'Outre-mer, la première. Et c'est ainsi que s'achève cette édition d'RFI Midi, préparée et réalisée aujourd'hui avec Stéphane Desfossé, Mickaël Ponge, Anne Cantner, Laurent Chaffard. Merci à eux. Merci à vous de nous avoir suivis. RFI Midi revient évidemment demain. L'actualité, c'est dans une demi-heure. Mais d'ici là, c'est de vive voix sur RFI. Très belle journée à l'écoute de la Radio du Monde.